Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h48, on va maintenant parler immigration avec cette mesure qui doit entrer en vigueur au Royaume-Uni et qui fait grand bruit. Le Parlement a adopté aujourd'hui une loi historique, selon les mots du Premier ministre Rishi Sunak. Elle prévoit d'expulser au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement dans le pays, quelle que soit leur origine. Et on en parle avec vous, Maître Philippe Fontana. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, auteur du livre La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Alors, ce projet, il prévoit d'expulser des migrants illégaux vers le Rwanda, je l'ai dit, hein, quel que soit leur pays d'origine. Comment est-ce que c'est possible ?
Bon, d'abord, ce n'est plus un projet, c'est cette loi.
Ça a été voté, safe, tout à fait.
Voilà, le Safety of Rwanda a été voté au petit matin. Et c'est vrai, c'est une innovation juridique parce que jusqu'à présent, toute personne, comme en Europe continentale, qui se présentait au Royaume-Uni pour solliciter l'asile, obtenait un titre de séjour le temps que sa demande soit examinée. Alors que l'innovation, c'est que toute personne qui rentre en séjour irrégulier au Royaume-Uni va être non pas expulsée, mais va être contrainte d'aller au Rwanda pour que sa situation soit examinée au Rwanda. Donc sur les 30 000 demandeurs d'asile, théoriquement, puisque l'immense majorité sont en situation régulière, c'est vrai que la plupart devront être acheminés, reconduits vers le Rwanda.
Et pourquoi le Rwanda ?
Ouais, parce que c'est un pays qui est devenu sûr, d'où le nom de cette loi. En fait, en matière d'asile, il faut bien comprendre que la personne qui s'estime persécutée part d'un endroit A, d'un pays A, pour aller vers un pays B. Mais si entre les deux pays, il y a des pays qui sont sûrs, pourquoi ne s'arrêterait-elle pas dans ces pays pour solliciter l'asile ? Prenons le cas d'un Afghan.
Pour des raisons économiques, peut-être, tout simplement.
Mais écoutez, il y a un véritable dévoiement d'asile. Dans ces cas-là, il faut plus parler de demande d'asile, il faut parler de contournement de certaines personnes qui habitent dans des pays qui n'ont pas la même évolution économique ou la même évolution au niveau de la sécurité que l'Europe et que le monde occidental. Et dans ces cas-là, il faut appeler un chat un chat. Donc, par exemple, un Afghan qui se présente en France, 60% des demandes sont refusées. On pourrait imaginer qu'il sollicite l'asile au Pakistan, on pourrait imaginer qu'il sollicite en Iran, on pourrait imaginer qu'il le sollicite dans les pays du Golfe. Or, la plupart des Afghans viennent en France, viennent en Allemagne et viennent au Royaume-Uni. La proportion est devenue de plus en plus importante. Cette année, il y a eu quand même 350 000 demandes d'asile en Allemagne et il y en a eu 167 000 en France. Donc les chiffres sont de plus en plus importants, même s'il y a un artifice de la part de la juridiction comme la Cour nationale du droit d'asile pour faire augmenter la demande d'asile en France, il y a quand même l'immense majorité dont la demande est refusée.
Donc vous pensez que ça peut être une bonne solution, parce que d'ailleurs l'Italie a aussi conclu un accord du même genre avec l'Albanie.
Alors justement, on peut parler de l'Albanie. L'année dernière, il y avait 45 000 demandes d'asile au Royaume-Uni. En 2022. Et l'année dernière, il n'y a eu plus que 30 000. Pourquoi ? Parce que le Royaume-Uni a obtenu la création d'un accord de coopération avec l'Albanie, justement pour que les pseudo-demandeurs d'asile n'arrivent pas jusque sur son territoire. Donc là encore, il y a les deux piliers, c'est le pays tiers sûr, donc le pays d'acheminement, le pays de passage, s'il est sûr, dans ces cas-là, ils ne vont pas jusqu'à leur destination, qui est l'Europe continentale ou le Royaume-Uni. Et ensuite, il y a la coopération. L'Italie, non seulement a mis en place un accord de coopération avec l'Albanie, mais aussi avec la Tunisie. Et j'espère que la France suivra cette même voie.
Et quel serait le pays que pourrait choisir la France pour cet accord ?
Bon, on peut éventuellement penser au Niger. Il y a des camps qui sont gérés par le HCR et la France d'ailleurs fait de la réinstallation, c'est-à-dire qu'une fois que les migrants au Niger ont obtenu un accord du HCR sur leur véritable situation de réfugiés, dans ces cas-là ils sont acheminés en France, mais ils pourraient être acheminés n'importe où. L'important, c'est que la demande d'asile soit présentée en dehors du territoire national ou en dehors de l'Europe. Or aujourd'hui en France, c'est impossible parce que, comme dans de multiples domaines, mais spécialement en matière d'immigration, vous avez le Conseil constitutionnel qui s'y oppose. Et donc, vous êtes en place vous avez un véritable gouvernement des juges qui est en place, ce qui fait qu'aujourd'hui, si le législateur français voulait suivre la voie britannique, il se heurterait une nouvelle fois à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et aussi du Conseil d'État. Je vais vous donner un exemple sur le rôle du Conseil d'État. Il y a une directive qui prévoit justement la notion de pays tiers sûr. Et donc, dans ces cas-là, s'il avait été adopté en France, eh bien, une personne qui aurait transité par un pays tiers sûr, sa demande d'asile aurait été déclarée immédiatement irrecevable. Donc, nous avons mal transposé cette directive. Il y a beaucoup de moyens juridiques de contourner le dévoiement du droit d'asile, et j'aimerais que cette question trouve un écho dans la campagne électorale des élections européennes, parce que comme c'est une compétence partagée, aujourd'hui c'est au Parlement de l'Union européenne que les choses se passent.
Mais si on revient sur la décision qui a été adoptée par le Parlement britannique, qu'est-ce qu'ils deviennent? Imaginons que tous ces migrants qui demandent un droit d'asile sont transférés au Rwanda. Si on refuse le droit d'asile, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils sont renvoyés dans leur pays. Qu'est-ce qui se passe?
Ils sont déboutés. Ensuite, c'est aux autorités rwandaises de trouver une solution. Et est-ce qu'elles vont? Je ne pense pas. Il est impossible de renvoyer une personne dans son pays d'origine si elle craint une persécution. Mais si elle ne craint pas la persécution, dans ces cas-là, tout est ouvert. Bon, la difficulté en France, c'est qu'il n'y a que 2% des OQTF qui sont appliqués. C'est-à-dire, si une personne, par exemple, l'OFPRA ne lui accorde pas l'asile, si elle perd devant la Cour nationale du droit d'asile, dans ces cas-là, elle doit être reconduite à la frontière. Elle bénéficie d'une obligation de quitter le territoire français. Or, la difficulté, ce sont les chiffres donnés par la Cour des comptes. Et au début de l'année, seulement 2% des OQTF sont exécutés en matière d'asile. Et c'est vrai qu'il y a des nationalités comme les Afghans, les Syriens, avec lesquels la France n'a plus de relations diplomatiques avec leur pays d'origine. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de guerre civile en Syrie. Il y a encore quelques poches, effectivement, qui peuvent poser problème. Mais pourquoi un Syrien, s'il est soumis à un conflit de haute intensité dans une partie de son territoire, n'irait pas dans une autre partie de son territoire? Donc, vous voyez que ce sont des choses qui sont... Il ne faut pas les traiter de manière idéologique, comme certaines associations qui sont quand même subventionnées à hauteur de 1 milliard d'euros par an en France le perçoivent. Il faut le considérer de façon très pratique. Toute personne qui est persécutée dans son pays d'origine, eh bien la France lui doit effectivement ce droit d'asile. J'aimerais que ça soit réservé aux francophones et aux francophiles, mais ça, vous voyez, ça serait une autre... une autre part de la question. J'espère qu'un jour on y viendra, parce que est-ce qu'un Afghan, même s'il est persécuté dans son pays d'origine, doit faire appliquer la charia en France, comme on l'a vu récemment à Bordeaux?
Ça, c'est aussi une autre question.
C'est une question importante pour nos compatriotes.
Bien sûr. Maître Fontana, est-ce que vous croyez à l'aspect dissuasif de ce genre d'annonce aussi? Parce que, évidemment, ça va finir par se faire, même s'il y a beaucoup d'opposition. Ça a mis 2 ans pour être voté. Et là, aujourd'hui, l'ONU proteste, beaucoup d'ONG protestent en Angleterre. Admettons qu'ils arrivent à, en effet, expulser des migrants demandeurs d'asile. Est-ce que finalement, vous pensez que ça peut dissuader d'autres migrants de venir ?
Certainement, parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que l'immense majorité de la demande d'asile est fondée sur des considérations économiques.
Mais oui.
Donc si la personne sait qu'elle va entamer un long voyage, périlleux d'ailleurs, c'est vrai que les personnes qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls, il y a déjà eu 30 000 morts.
Il y a encore eu un drame ce matin avec 5 morts.
Il y a des drames tous les jours. Donc non seulement la dissuasion est efficace pour les pays d'accueil, mais elle est aussi efficace pour les migrants. Parce qu'encore une fois, la vraie question qui vaille est celle de l'homme, comme disait le général de Gaulle. Il faut quand même toujours concevoir la politique avec la part d'humanité qui est nécessaire.
Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Maître Philippe Fontana, d'avoir été en direct sur Europe 1, avocat au barreau de Paris. Et je rappelle le titre de votre livre, La vérité sur le droit d'asile, aux éditions de l'Observatoire.